Bonjour frères et sœurs, je vous souhaite à vous tous vraiment un excellent sabbat. Le 8 juillet 1741, le prédicateur calviniste Jonathan Edwards a prononcé ce qui est probablement le sermon le plus connu jamais donné en Amérique du Nord. Le titre en était « Pécheur entre les mains d'un Dieu courroucé ». Et à en entendre, même les hommes les plus courageux étaient terrifiés par les descriptions de Dieu qu'il donnait et comment Dieu considérait, d'après lui, les gens. Ce point de vue, véhiculé par ce sermon, a beaucoup affecté comment les gens voyaient Dieu pendant tous ces siècles. Et encore aujourd'hui, il y a des traces de cette attitude ou cette perception de Dieu. Un Dieu violent, dur, sévère, cruel. Son sentiment particulier, c'est la colère avant tout. Je voudrais vous lire un extrait de ce sermon. Le Dieu qui vous retient suspendu au-dessus de l'abîme infernal éprouve une infinie aversion à votre égard, tout comme l'on tient un insecte répugnant au-dessus du feu. Vous avez terriblement provoqué sa colère, et celle-ci brûle comme un feu à votre encontre. Vous méritez seulement d'être précipité dans le feu. Les yeux de Dieu sont trop purs pour supporter la vue que vous leur offrez, et vous lui paraissez 1000 fois plus abominable que le serpent le plus venimeux. Vous l'avez offensé infiniment, plus que ne l'a jamais fait le plus entêté des rebelles à l'égard de son prince. Pourtant, seule sa poigne vous empêche à tout moment de tomber dans le feu. Elle seule vous a gardé dans l'enfer la nuit dernière et vous a permis d'ouvrir à nouveau les yeux en ce monde après les avoir fermés dans le sommeil. Elle seule vous a préservé des tourments éternels depuis votre réveil. De même, aucune autre raison ne vous a protégé de l'enfer depuis le début de votre lecture. Depuis même que je vous parle, vous provoquez Dieu à la colère par la manière méchante et coupable dont vous réfléchissez à un sujet si solennel. Non, absolument aucune autre raison n'explique le fait que vous ne tombiez pas un instant même dans la gueule béante de l'enfer. Terrible, n'est-ce pas? Ma question pour vous aujourd'hui, c'est, Dieu est-il comme ça? Voit-il l'humanité de cet œil, de cette optique? Est-ce qu'il nous voit comme ça, vous et moi? Devrions-nous vivre dans la peur, de la colère de Dieu qui doit tomber sur nous? Dieu est-il froid, courroucé, dégoûté de nous? Comment est-il Dieu, au juste? Et comment devrions-nous l'imaginer, comment devrions-nous le voir dans nos esprits quand nous pensons à lui? Eh bien, la première chose à constater à propos de Dieu, c'est qu'il est puissant au-delà de toute compréhension humaine. Il y a quelques passages dans la Bible où les hommes de Dieu ont reçu l'occasion d'avoir un petit aperçu de ce qui se passe autour du trône de Dieu. Et je pense que c'est bon pour nous de commencer aujourd'hui en regardant un de ces passages dans Ézéchiel, le premier chapitre. Ézéchiel, chapitre 1. Nous avons un petit aperçu ici de la, on va l'appeler la salle du trône de Dieu, l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 1. Je ne lirai pas tout le chapitre, je vous laisse lire les versets que nous ne lirons pas aujourd'hui à votre loisir. Mais je voudrais lire une partie pour que nous ayons à l'esprit une idée, l'image que la Bible présente de Dieu sur son trône. Ézéchiel chapitre 1 verset 4. « Je regardais, et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient quatre animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait quatre faces, et chacun avait quatre ailes. Leurs pieds étaient droits, et la plante de leurs pieds était comme celle du poids d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils avaient des mains d'hommes sous les ailes, à leurs quatre côtés, et tous les quatre avaient leurs faces et leurs ailes. » Allons un peu plus loin maintenant. descendons au verset 22. Comme j'ai dit, je vous laisse lire les versets entre ces deux points. Au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant qui s'étendait sur leurs têtes dans le haut. Sous le ciel, leurs ailes étaient droites, l'une contre l'autre, et ils en avaient chacun deux qui les couvraient, chacun deux qui couvraient leur corps. J'entendis le bruit de leurs ailes quand ils marchaient, pareil au bruit de grosses eaux ou de la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit tumultueux comme celui d'une armée quand ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. Il se faisait un bruit qui partait du ciel étendu sur leur tête lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus, en haut. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut. Et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue, et en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombai sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui me parlait. Voilà une description de la vision qu'Ézéchiel a vue, utilisant le vocabulaire qu'il avait à disposition. Mais il a eu un aperçu de Dieu sur son trône, la salle du trône de Dieu lui-même. Et c'est difficile pour nous d'imaginer une telle chose. On voit que c'était même difficile pour Ézéchiel de décrire ce qu'il voyait dans cette vision. La grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu, tout cela nous dépasse. Et nous devons comprendre que le grand Créateur, dont nous lisons la description ici dans Ézéchiel, il ne fera jamais de compromis avec le péché. Il n'acceptera jamais des comportements qui sont contraires à sa voie de vie. Il déteste le péché, la transgression de sa loi. Il déteste les souffrances qui sont engendrées par le péché. Dieu est en colère contre les souffrances que nous nous imposons les uns aux autres étant êtres humains, dans la guerre, dans les troubles au sein des sociétés, dans les confrontations au niveau de la famille et autres. Dieu hait ces choses-là. Et il n'accepte pas qu'on persiste dans la mauvaise voie. Et si il y a des êtres humains qui persisteront dans la mauvaise voie, ayant une pleine compréhension de sa volonté, eh bien, ces gens-là ne pourront pas hériter le royaume de Dieu. Dieu ne fera pas ce compromis. Mais notre Père céleste n'est pas comme l'être qui a été décrit par Jonathan Edwards. Malgré sa puissance inimaginable, l'une de ses qualités les plus importantes est la douceur de Dieu. C'est ce que nous allons regarder un peu pendant ces quelques minutes aujourd'hui. La douceur, le côté tendre, la tendresse de Dieu dans ses rapports avec sa création. Prenez avec moi psaume 18. Psaume 18, versets 35 et 36. Psaume 18, nous commencerons au verset 35. Il exerce mes mains au combat, et mes bras tendent l'arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient, et je deviens grand par ta bonté. Dans plusieurs traductions en anglais, le mot n'est pas bonté, mais douceur. Il y a un mot qui correspond parfaitement à douceur en anglais. Ceci peut être traduit également par mansuétude ou sollicitude. Et c'est traduit ainsi dans d'autres traductions également. Je deviens grand par ta douceur. Je viens grand par ta bonté, ta mansuétude, ta sollicitude. Est-ce que nous pensons à la douceur de Dieu, à la douceur de notre Dieu, à notre encontre et à l'encontre des autres? David avait conscience d'être devenu grand par la bonté, la douceur de Dieu. Il avait appris de Dieu Et certainement, il essayait aussi de le pratiquer dans sa vie, comme nous devrions le faire également. Le Dieu de la Bible, même quand il est décrit, même quand nous le voyons en action dans l'Ancien Testament, là où beaucoup de gens imaginent que Dieu était dur et cruel, le Dieu de Jonathan Edwards, même là, dans l'Ancien Testament, quand nous voyons le Dieu créateur, il est un Dieu d'amour. Il est un Dieu de miséricorde. Il est un Dieu de douceur. Il est soucieux de toute sa création. Et il y a beaucoup de passages qui nous le disent directement. Regardons 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, verset 8. 1 Jean chapitre 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour sous-entend une douceur, n'est-ce pas? Une mansuétude, sollicitude pour l'autre, pour autrui. Et Dieu est amour. Si on devait choisir un seul mot pour décrire Dieu, ça serait amour. Ça définit son caractère, sa façon de faire, ses valeurs. Tout cela est défini par ce mot amour. Le verset 16 répète cette phrase. Nous, nous avons connu l'amour de Dieu, que Dieu a pour nous, et nous y avons cru, Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. En fait, nous ne pouvons pas connaître le vrai amour au niveau divin sans que Dieu nous le donne, sans qu'il nous le révèle et qu'il le suscite en nous. Retournons dans les psaumes maintenant et regardons quelques autres versets. Psaume 100 cette fois-ci. Psaume 100, verset 5. Psaume 100, verset 5. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. L'Éternel est bon. Là aussi, la bonté sous-entend une certaine douceur dans son approche, de ne pas blesser l'autre. Et Dieu ne le fait pas si cela peut être évité. Psaume 106, psaume 106, verset 1. Psaume 106, verset 1. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Sa miséricorde dure à toujours. Mes frères et sœurs, cette vérité biblique est très encourageante. C'est très encourageant de voir la douceur, la bonté, la tendresse de Dieu envers les êtres humains, les personnes avec qui il travaille, et envers sa création, même en général, on peut le dire. C'est très encourageant. Alors, je vous propose qu'aujourd'hui, nous considérions quelques passages bibliques qui vont nous donner un aperçu de la nature de Dieu en action. Sa personnalité à l'œuvre avec ses serviteurs. C'est un message passionnant pour nous, mais c'est aussi un message très encourageant pour nous quand nous comprenons l'amour et la douceur de Dieu. Retournons maintenant tout au début de l'histoire humaine, tout au début. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 18. Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. » Et notons ce petit détail. « Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. » Pourquoi est-ce que ce petit détail est mentionné ici? Dieu a fait venir les animaux devant Adam, qui venait certainement d'être créé lui-même, et Dieu a permis à Adam de choisir des noms. La Bible ne nous dit pas comment il l'a fait, mais on peut supposer qu'il décrivait ce qu'il voyait, et qu'il donnait des noms selon la ressemblance ou selon l'idée qui lui venait en tête. Peut-être que le girafe était nommé d'après son cou, l'éléphant d'après sa trompe, etc., etc., on ne sait pas. Mais en tout cas, Dieu a partagé tout de suite avec l'homme la joie de la création. Il a fait participer Adam à la création de la préparation de ce monde dans lequel les êtres humains allaient vivre. Si vous avez eu des enfants, vous avez été enfant, tout le monde, nous savons que dans nos familles, c'est vraiment amusant pour les enfants de participer à ce que font leurs parents, à leur niveau. Ils ne peuvent pas pleinement tout faire, selon les âges, mais ils ont la joie, on voit la joie dans leur visage quand ils peuvent participer. Eux, ils peuvent aussi faire comme maman et papa. Et les parents aiment faire participer leurs enfants. Ils aiment voir la joie de l'enfant à pouvoir développer une capacité nouvelle, participer à un projet familial. Les enfants l'aiment beaucoup. C'est une joie, les joies de la famille. Eh bien, nous voyons tout de suite au début, Dieu a fait ça avec Adam. Adam, qui était là peut-être depuis un jour seulement, Dieu fait venir les animaux devant Adam et il dit, alors, comment tu vas nommer celui-ci? Comment tu vas nommer celui-là? Et Adam, tout de suite, a eu l'occasion d'imaginer des noms pour chaque animal. Et Dieu a décidé, il a dit, chaque animal sera appelé par le nom que tu vas lui donner. Et c'est comme ça que Dieu a commencé déjà à travailler avec Adam. Il y a une douceur là, il y a une tendresse là, il y a une sollicitude là, il y a un amour qui est témoigné pour Adam par son Créateur. Dans Genèse chapitre 3, verset 8, Genèse chapitre 3, verset 8, c'est après maintenant le péché d'Adam et Ève, ils ont mangé le fruit défendu. Mais il y a un autre détail qui est donné ici que je trouve fort intéressant. Ils se sont cachés. Lisons le verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu du jardin. Maintenant, dans d'autres traductions de la Bible, vers le soir, il y a des détails qui sont ajoutés qui viennent de l'hébreu, en fait. La version synodale traduit ce verset « au souffle du vent du soir ». Et la version Darby, encore plus exacte, « au frais du jour ». Ce détail est ajouté là. Dieu se promenait dans le jardin au souffle du vent du soir, au frais du jour. Si le climat dans cette région est similaire au climat actuel, c'est une région chaude, il fait très chaud. Et ayant voyagé dans pas trop loin de là où ces choses ont eu lieu, en Jordanie et dans d'autres régions, je peux vous dire qu'il fait extrêmement chaud le jour. Et les moments les plus agréables de la journée sont tôt le matin et au crépuscule, hein, juste vers la fin de la journée. Il y a un peu de vent, c'est un peu moins chaud, il y a un petit peu de fraîcheur qui commence, et la différence entre la chaleur du jour et un peu plus de fraîcheur, la nuit se fait sentir, et c'est une joie. Encore une fois, c'est un plaisir, ce moment de la journée, c'est vraiment agréable. Et ici, nous voyons que le Créateur Dieu, qui est capable de tout créer, que nous voyons autour de nous, eh bien, il apprécie le frais du soir. Il apprécie se promener dans son jardin qu'il avait créé au frais du soir, au frais du jour, au souffle du vent du soir. Et bon, nous pouvons passer puisqu'il a demandé où étaient Adam et Ève, et ils ont dû avouer nous nous sommes cachés parce que nous sommes nus, etc., etc. Mais notons juste ce petit détail. Notre Dieu sait apprécier la fraîcheur d'un jardin le soir ou le matin. Il aime cela. Il apprécie les aspects agréables de la vie. C'est lui qui les a créés pour nous. Il apprécie les feuilles qui changent de couleur en automne. Sinon, ça ne se ferait pas. Ça ne nous donnerait pas la joie que nous avons à le voir. Il a cette joie aussi. Il aime un vent plutôt frais en été qui rafraîchit. La beauté de la neige fraîchement tombée sans trace de pas. La beauté d'un ciel bleu. La vue d'une pluie qui avance vers nous sur la plaine, toutes ces choses qui nous donnent des frissons de plaisir, des frissons de joie. Eh bien, Dieu ressent ces mêmes émotions puisque c'est lui qui les a mis en nous. Toutes les merveilles de la nature, les éléments de la nature qui nous impressionnent tant, Dieu les apprécie aussi. C'est lui qui nous a donné cette appréciation. C'est lui qui nous a donné la capacité de nous réjouir de ces éléments de sa création. Descendons quelques versets au verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Adam et Ève s'étaient cousus des mini-jupes de feuilles. Ça n'allait pas durer très longtemps. Dieu leur fait des habits de peau. Avant de les sortir du jardin d'Éden, Dieu leur donne de bons vêtements. Mais pensons-y un instant. Quelle est la situation au moment où Dieu leur donne ces vêtements-là? Adam et Ève venaient de prendre et de manger du fruit de l'arbre défendu. Une très mauvaise décision. En fait, ils s'étaient rebellés contre Dieu. Ils s'étaient alignés avec Satan, contre le Créateur. Ils venaient de faire démarrer la race humaine sur un chemin désastreux. Ils venaient de rendre nécessaire la mort du Fils de Dieu par leur péché. En fait, celui qui se promenait là dans le jardin, celui qui les avait créés, ce n'était pas Dieu le Père, c'est celui qui est devenu Jésus-Christ, celui qui allait devoir mourir à cause de ce qu'il venait de faire, ces deux êtres humains, nos premiers parents. Il venait de rendre nécessaire la mort de celui qui était en face d'eux à ce moment-là. Pourtant, Dieu savait ce qu'ils avaient devant eux, que la vie allait devenir très difficile pour eux dans le monde, avec les ronces et les épines, loin de ce beau jardin. Alors avant de les renvoyer, Dieu leur a fait de bons vêtements de peau, de cuir, plutôt que leur mini-jupe de figuier, de feuilles de figuier. Malgré ce qu'ils venaient de faire, Dieu les aimait encore, et il voulait prendre soin d'eux, même dans ces circonstances-là. Et nous voyons qu'il l'a fait. La douceur de Dieu, la sollicitude de Dieu. On le voit parfois dans des petits détails qui sont mis dans la Bible exprès pour que nous puissions les trouver et y réfléchir et y méditer. Genèse chapitre 7. Genèse chapitre 7. Verset 15. Genèse chapitre 7, verset 15 et 16. C'est l'histoire de Noé maintenant qui entre dans l'arche avec sa famille et les animaux. Et c'est marqué dans Genèse chapitre 7, verset 15, « Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, deux à deux, et toute chair ayant souffle de vie, il en entra, mâle et femelle, et de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis, encore une petite détail intéressant, l'Éternel ferma la porte sur lui. » L'Éternel ferma la porte sur lui. Réfléchissons un instant. Pourquoi est-ce que Dieu aurait fait cela? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il aurait été très difficile pour Noé de fermer la porte sur ses voisins? Peut-être sur des amis, on ne sait pas s'il avait des amis proches, mais il a dû avoir des connaissances, des personnes avec qui il avait au moins certaines choses en commun. Les personnes avec qui il avait grandi, personnes qu'il avait connues depuis toute sa vie, peut-être des parents à lui. Dieu ne lui a pas dit qu'il devait fermer la porte sur sa famille et sur ses voisins. Dieu savait que ces gens allaient se noyer bientôt. Mais Dieu savait aussi qu'ils allaient ressusciter, qu'ils vivraient de nouveau. Tout cela faisait partie du plan de Dieu. Dieu allait leur donner la chance de revivre à un meilleur moment, quand ils pourraient avoir une meilleure compréhension, quand leur environnement ne serait pas si nocif, tellement nocif que le monde entier était rempli de violence. Dieu les mettait en réserve, ces gens-là, pour un moment futur, dans un monde sans corruption, où ils auraient la chance de recevoir le don de la vie éternelle que Dieu veut offrir à tout le monde. Dieu savait tout ça. Donc pour lui, fermer la porte, ça faisait partie de son plan, c'était même une expression d'amour de la part de Dieu pour sa création. Mais ça aurait été difficile pour Noé, mettez-vous à sa place. Dieu aurait pu dire à Noé, ferme la porte. Après tout, Dieu avait fait construire l'arche par Noé pendant 120 ans. Si nous prenons en ligne de compte Genèse chapitre 6, verset 3, apparemment, c'est pas certain, mais apparemment, pourquoi pas simplement dire à Noé, « Ok, tout est fini, ferme la porte, maintenant on y va. » Non, il a compris la difficulté que cela aurait pu causer pour Noé. C'est Dieu lui-même qui a fermé la porte. Ce n'est pas que le mécanisme n'était impossible à prévoir. Si Noé pouvait construire l'arche, il pouvait très bien construire une porte qu'on pouvait fermer de l'intérieur. Mais ce n'est pas comme cela que ça s'est fait. C'est Dieu qui a fermé la porte. C'est Dieu qui a fermé la porte. Sans doute pour épargner les sentiments de Noé et de sa famille, qui avaient, encore une fois, probablement des amis et de la famille à l'extérieur de l'arche. Considérons aussi Genèse chapitre 6, verset 11. Genèse chapitre 6, verset 11. Nous voyons la motivation de ce qui s'est passé au moment de ce grand déluge. Verset 11 de Genèse 6. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Il y avait trop de corruption. Il y avait trop de violence. Alors Dieu y a mis un fin. Quand les choses étaient allées trop loin, ou peut-être que Dieu prévoyait la possibilité que les êtres humains seraient irrécupérables, il est intervenu. Il a mis une fin à tout cela pour que son plan puisse procéder et qu'il puisse mener à la gloire beaucoup d'enfants, beaucoup de fils. Les prophéties nous indiquent que Dieu fera de même dans un avenir pas trop lointain. Il va devoir intervenir de nouveau, sauver l'humanité de son propre suicide, parce que Dieu est au courant. Il suit ce qui se passe sur la terre. Quand les choses étaient devenues trop corrompues à l'époque de Noé, Dieu est intervenu. Il n'a pas laissé partir les choses comme ça. Et il va intervenir de nouveau dans l'avenir pour sauver la vie humaine sur la terre. Dieu est très au courant de ce qui se passe parmi sa création. Il sait ce qui se passe. Il n'est pas insoucieux. Il n'est pas insouciant, la tête ailleurs, oubliant que nous sommes là. Il ne nous laisse pas à nos propres moyens. Il fait très attention à sa création. Et ça, c'est encourageant de savoir. Le plan de Dieu progresse aujourd'hui comme Dieu l'avait prévu depuis le début. Tout se passe comme il le prévoit. Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11, verset 4. Nous sommes maintenant dans le contexte de la tour de Babel, Genèse chapitre 11, verset 4. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » À l'encontre des instructions que Dieu leur avait données. L'Éternel, notons le verset 5 maintenant, « L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. » L'Éternel est descendu voir. Il n'a pas envoyé un ange, « Envoie-moi un rapport. » De toute façon, Dieu sait ce qui se passe partout. Mais pour une raison qui n'est pas rendue explicite ici, il est descendu lui-même voir sur le terrain ce qui se passait. Encore une fois, il n'a pas la tête ailleurs. Il suit très attentivement ce qui se passe ici sur la terre. Genèse chapitre 18. Genèse 18, verset 20. Là, nous sommes à l'époque maintenant de Sodome et Gomorre. L'Éternel Dieu dit, « Le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. » Encore une fois, Dieu a pris la décision de venir personnellement regarder comment étaient les choses sur le terrain. Encore une fois, Dieu n'est pas insouciant de sa création. Il est soucieux de sa création. Exode chapitre 3. Nous voyons un passage similaire, la même chose. Exode chapitre 3, verset 7. Exode chapitre 3, verset 7. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Éthiens, les Amoréens, les Phériziens, les Éviens et les Jébusiens. Dieu dit, j'ai entendu le cri, je suis descendu pour les délivrer. Intéressant. Dieu vient voir pour lui-même. Il aurait pu faire les choses autrement, rien n'est impossible à Dieu, mais il a choisi de venir en personne. Sans doute pour souligner à quel point sa création et son peuple sont importants à ses yeux, à quel point ses serviteurs ont de la valeur à ses yeux. En allant un peu plus loin maintenant dans le récit biblique, considérons plus précisément comment Dieu a agi, comment il a fait avec Abraham et sa famille. Avec Abraham et sa famille. Tout d'abord, prenons un passage dans Ésaïe chapitre 41. Ésaïe 41. Verset 8. Ésaïe chapitre 41, verset 8. « Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé. » Maintenant, d'autres traductions dans la Bible mettent « mon ami ». Abraham, mon ami. C'est le cas dans plusieurs versions en anglais. C'est aussi le cas dans plusieurs versions en français. La Nouvelle Bible Second, le Second 21, la Bible de Jérusalem. Toutes ces autres traductions mettent Abraham, mon ami. Wow! Être l'ami de Dieu, est-ce possible? Mais Dieu appelle un être humain son ami. On peut devenir l'ami de notre Créateur. Il a cette douceur-là. Il a cette sollicitude-là envers sa création. Même d'être disposé à entrer dans une relation d'amitié avec sa création, avec les êtres de sa propre création. Mon ami. Abraham, mon ami. Revenons dans Genèse maintenant et prenons quelques scènes, ça et là, des relations de Dieu avec Abraham et sa famille, et nous allons voir comment Dieu s'est conduit envers eux. Genèse chapitre 18. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Abraham savait que s'il passait là, il devait s'entretenir. Il répondit, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, « Vite, trois mesures de fleurs de farine pétries, fais des gâteaux. » Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il le mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est là dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir d'enfants. Des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? Au temps fixé, je reviendrai vers toi, et à cette même époque, et Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri, car elle eut peur. » Mais il dit, « Au contraire, tu as ri. » Réfléchissons un petit peu à ce que nous venons de lire là aussi. Dieu a fait une promesse difficilement croyable, du moins sur le plan humain. une dame, une femme passée l'âge de pouvoir avoir des enfants, ou apparemment même des désirs, on lui annonce qu'elle va avoir un enfant. Et elle rit, en elle-même, peut-être même pas à haute voix, mais elle doutait, elle disait ça, c'est comment est-ce que ça peut se faire? Et c'est clairement expliqué là qu'elle a menti parce qu'elle a eu peur. Oh, le Seigneur a entendu que j'avais ri, je veux pas ça, on veut pas admettre une erreur qu'on s'est faite. Et je pense que probablement nous tous, ou du moins la plupart d'entre nous, à un moment donné, à un autre, nous avons dit quelque chose qui n'était pas tout à fait exact dans le feu de l'action, parce que nous ne voulons pas être pris par un fait gênant ou embarrassant. On n'y réfléchit pas trop, mais avant même d'y penser, on a menti. Maintenant, Dieu aurait pu dire, mais comment oses-tu mentir? Je suis l'Éternel. Je sais ce que tu penses. Comment oses-tu faire une chose pareille? Mais il ne l'a pas fait. Regardez la douceur avec laquelle il a répondu. Il a dit, ah, au contraire, tu as ri. Très doucement, très gentiment, avec beaucoup de sollicitude. Avec beaucoup de sollicitude. Sa douceur, nous le voyons ici avec Abraham et avec Sarah. Dieu était très doux avec son ami Abraham. Allons un peu plus loin maintenant, chapitre 22. Et nous voyons le grand test, le grand épreuve d'Abraham ici. Genèse chapitre 22. Vous connaissez cette histoire, je ne lirai pas tout. Mais commençons au verset 1. « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham, il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sela son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. » Et nous connaissons le reste de l'histoire. Finalement, verset 10, Abraham étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et je ne lui fais rien, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Je sais maintenant que tu crains Dieu. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons plusieurs choses. Tout d'abord, nous voyons que Dieu nous donne ce que nous appelons le libre arbitre. Nous avons la liberté de choisir si nous allons obéir à Dieu ou pas. Nous avons la liberté de distinguer entre le bien et le mal et de faire un choix. Est-ce que nous allons faire le bien ou non? C'est une grande bénédiction pour nous que d'avoir le libre arbitre, parce que cela nous donne une potentialité époustouflante. Nous ne sommes pas des robots. Nous ne sommes pas programmés. Nous avons la potentialité de devenir pleinement des enfants de Dieu dans la famille divine, de lui ressembler, d'être comme il est. Ça veut dire que nous serons capables, nous sommes déjà capables, de créer, de penser de manière indépendante. Quelle grande bénédiction que d'être conscient de cette manière-là. Cela veut dire que Dieu choisit de ne pas savoir ce que nous ferons dans toutes les situations. Il nous donne la liberté de choisir. Il a dû mettre Abraham à l'épreuve, et quand Abraham a réussi l'épreuve, Dieu a dit, « Maintenant, je sais. Je sais que je peux compter sur ton caractère. Tu as bien agi, tu as réussi cette épreuve. » Et tout de suite après, verset 15, Dieu prononce des bénédictions sur Abraham. Dieu choisit de ne pas savoir tout ce que nous allons faire. Il nous laisse la liberté de choisir. Alors il permet que nous soyons testés, que nous passions par des épreuves, pour savoir, pour voir ce que nous ferons. Il nous récompense quand nous réussissons ces épreuves. Et il est patient et miséricordieux envers nous quand nous faisons des erreurs, comme nous le faisons tous. Il est patient, il est prêt à pardonner, il est miséricordieux. Et quand nous réussissons, il nous bénit. il y a des bénédictions. Plusieurs choses à retenir de cette histoire dans la vie d'Abraham. Revenons un peu en arrière maintenant dans Genèse 17. Genèse 17. Regardons un autre exemple. Verset 15. Genèse 17, verset 15. Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai, je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba sur sa face, il rit et il dit à son cœur, « Naîtrait-il un fils, un homme de 100 ans ?» Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Même aujourd'hui, on aurait du mal à croire cela, même avec les progrès de la technologie. Et Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face !» 19, verset 19, Dieu dit, « Certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. » Verset 20. Mais à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'extrême. Il engendra 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Mais j'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque de l'année prochaine. Abraham aimait son fils, Ismaël. Abraham, nous le savons, pour avoir Ismaël, il avait pris la situation entre ses propres mains. Il savait qu'il devait avoir un fils, le fils ne venait pas. Plutôt que de patienter et de croire pleinement en Dieu, il a dit, il faudrait que ce soit par Agar. C'était une erreur de sa part, il n'aurait pas dû le faire. Mais Dieu n'a pas eu des rancunes, il n'était pas rancunier envers Abraham. Il a béni Ismaël à cause de son amour pour son père. C'était pas le plan de Dieu que ce soit comme ça. Il avait mal agi, Abraham, en le faisant, mais Dieu n'était pas rancunier. Il a béni généreusement son fils, Ismaël, à cause de son amour pour Abraham. Genèse 19, un autre exemple. Genèse 19. Genèse 19, verset 15. Sodome et Gomorre vont être détruites. Les anges sont là, dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors la ville. Continuons. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » Lot leur dit, « Oh non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie et elle est petite. » « Oh, que je puisse m'y sauver, n'est-elle pas petite, et que mon âme vive ?» Et il lui dit, « Voici, je t'accorde encore cette grâce. Je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. » C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar, qui signifie « petit ». Encore plusieurs choses à relever dans ce passage, vraiment fascinant. Lot à Sodome. Les anges, qui sont évidemment en communication constante avec Dieu, sous les instructions de Dieu, quand ils voyaient que la famille tardait, ne voulait pas vraiment partir, ils les ont pris par les mains pour les tirer hors de la ville, pour leur sauver la vie. Ils hésitaient beaucoup, ils ne voulaient pas partir. Alors plutôt que d'aboyer des ordres, si tu vas mourir, si tu restes ici, fais comme tu veux, moi j'ai fait ma part. Non. Ils ont persisté, ils ont insisté, ils ont pris par la main pour les tirer gentiment et doucement hors de la ville. Et puis nous voyons également que Lot a le culot, si on peut dire ainsi, de demander encore davantage. C'est déjà une grande chose d'avoir des anges venir vous sauver d'une ville qui va être détruite. On voit la miséricorde de Dieu, il a dit lui-même. Il a dit, oh, j'aime pas la vie en montagne. C'est une petite ville. Est-ce que tu peux le préserver pour moi? Et Dieu a accepté. Dieu a accepté même cette demande-là. Dieu lui a accordé ce qu'il a demandé. On voit la douceur de Dieu quand il travaille, quand il œuvre avec ses serviteurs. Genèse 18, revenons un chapitre en arrière de Genèse 18, verset 16. C'est quand les anges vont partir vers Sodome et Gomorre pour les détruire. Les hommes se levèrent pour partir, verset 16 de Genèse 18. Ils regardèrent du côté de Sodome, alla avec eux pour les accompagner. L'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. En lui seront bénies toutes les nations de la terre. » Allons, verset 23. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ?» Dieu lui explique, « Sodome et Gomorre vont être détruites à cause de leur méchanceté. » Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville? Les feras-tu périr aussi, et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant en sorte qu'il soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir, loin de toi, ce n'est pas ton caractère, Éternel. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5? Détruira toute la ville pour 5? Et l'Éternel dit, je ne le détruirai point si je trouve 45 justes. Il remet le compte comme il faut. C'est pas pour les 5, c'est pour les 45. Abraham essaie de négocier, on va dire. Il négocie. Et Dieu sait exactement ce qui se passe, ce qui se fait, mais il est disposé à avoir cette discussion avec Abraham. Abraham continuait de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. L'Éternel dit, je ne ferai rien à cause des 40. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point, je parlerai peut-être si trouvera-t-il 30 justes. L'Éternel dit, je ne le ferai rien si je trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, peut-être si trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de 20. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point, je ne parlerai plus que cette fois-ci. Peut-être si trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Et l'Éternel s'en alla. Fascinante, n'est-ce pas, cette discussion avec Abraham, entre Abraham et Dieu. Abraham ose, on va dire, il ose raisonner avec Dieu. Loin de là, que toi tu agisses comme ça, toi tu es le Dieu de miséricorde, tu ne feras pas périr le juste avec le méchant. Il raisonne avec Dieu. Et il négocie avec Dieu également. Et Dieu accepte de le faire. Je me demande, frères et sœurs, si nous ne devrions pas parler à Dieu avec autant de respect ici, mais aussi de raisonner avec lui dans nos prières, et de lui expliquer pourquoi nous pensons que les choses devraient être comme ceci ou cela, comme Abraham l'a fait. C'était très efficace ici. Dieu ne l'a pas repris, n'a pas corrigé pour faire comme ça, mais comment oses-tu ? La volonté de Dieu est toujours parfaite. Comment oses-tu proposer autre chose? Non, il n'a pas repris ou corrigé de cette façon-là. Personnellement, je suis convaincu que Dieu appréciait de voir le souci qu'Abraham avait pour les gens de la ville. Il intervenait pour demander miséricorde. Et ça, c'est une qualité que Dieu apprécie énormément. Rappelons-nous l'exemple d'Abraham. Et parlons à Dieu quand il le faut, quand le moment est propice, de cette façon-là aussi. Nous pouvons, avec beaucoup de respect, raisonner avec Dieu, expliquer pourquoi nous pensons que les choses devraient se passer comme ceci ou comme cela. Dieu a bien écouté Abraham et il a agi. Psaume 18 maintenant, continuons. Psaume 18. Nous fermons le chapitre maintenant de la famille de la vie d'Abraham. Nous allons regarder quelques autres passages ici, avant de conclure. Psaume 18, verset 7. Psaume 18, verset 7. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des montagnes frémirent. Ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux, il descendit, il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait, il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite et sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappait des nuées, l'encens de la grêle et les charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix. Verset 15, il lança des flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut, le fondement du monde furent découverts par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira de grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Ça, c'est l'expérience de David dans sa vie. Il est passé par beaucoup d'endroits, beaucoup de moments dangereux, et il a toujours eu la protection de la part de Dieu. Et il a décrit tout cela de manière très poétique. C'est vraiment exceptionnel quand on voit la bonté et la douceur de Dieu vis-à-vis de David également. Matthieu chapitre 26, encore un autre exemple de la douceur de Dieu. Matthieu 26, verset 36. Matthieu chapitre 26, verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il vint alors vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi ? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré en main des pécheurs. » « Levez-vous, allons, voici celui qui me livre, s'approche. » Le Fils de Dieu lui-même a prié pour ne pas passer par cette épreuve terrible. La réponse de Dieu était qu'il devait le faire. Mais cela ne voulait pas dire que Dieu ne se souciait pas de lui. Même son propre Fils qu'il aimait à ce moment-là plus que tout autre, son Fils unique, même lui devait souffrir afin d'accomplir, compléter le plan de Dieu. Il est normal, alors, frères et sœurs, que vous et moi nous passions par des moments difficiles. C'est dans ces moments pénibles que nous doutons de la tendresse de Dieu, la douceur de Dieu, la bonté de Dieu. Nous pouvons avoir des doutes quand ça fait mal, mais nous devons nous inspirer de l'exemple du Christ, qui a eu beaucoup plus mal que vous et moi. Et il a accepté, puisque c'était nécessaire pour accomplir le plan de Dieu. Il y a un exemple dans Jean que j'aime beaucoup aussi, Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. » Plus tard, nous apprenons que Lazare est mort. Il meurt, et Jésus arrive après coup. Et puis, au verset 32, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. C'est le verset le plus court dans la Bible. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il aimait. » Et vous savez ce qui se passe par la suite. Jésus ressuscite Lazare. Il le ressuscite. Alors pourquoi est-ce qu'il a pleuré? Jésus savait qu'il allait le ressusciter. Il savait que tout cela devait se produire pour la gloire de Dieu, il avait dit au début. Il savait que dans quelques instants à peine, il allait ressusciter Lazare et qu'il y aurait la grande joie. Pourquoi alors Jésus a-t-il pleuré? Tout simplement parce qu'il compatissait avec leur douleur. Il compatit avec la douleur que nous ressentons, même quand il sait que ça sera de courte durée et que ça va passer. Il compatit à notre douleur. Il compatit. Et quand nous pleurons, il ressent ce que nous ressentons. Quand nous passons par des moments très pénibles et difficiles, il ressent ce que nous ressentons. Il compatit. Il ne nous laisse pas tout seul. Il est là pour nous aider. Peut-être qu'il y a des moments dans votre vie ou dans la mienne où Jésus pleura. C'est possible. S'il l'a fait là, pourquoi est-ce qu'il ne le ferait pas à d'autres moments? Dieu a des émotions comme nous. Notre Père Céleste et notre frère aîné ont une relation très intime avec nous. Ils savent ce qui se passe avec nous, chez nous, tous les jours. Ils comprennent, ils compatissent et ils interviennent. Il nous aide pour l'accomplissement du plan de Dieu. Hébreux chapitre 4, dernier passage. Hébreux chapitre 4, verset 15. Hébreux chapitre 4, verset 15. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. En effet, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Il est tenté comme nous, et il a réussi, ce que nous ne faisons pas toujours. Dieu est un Dieu de douceur, de gentillesse, de tendresse. Ça, c'est le Dieu que nous servons. C'est notre Père Céleste, c'est notre frère aîné Jésus-Christ. La leçon pour nous, frères et sœurs, c'est de nous approcher souvent du trône de la grâce pour être secourus dans nos besoins. Allons-y souvent.